France Culture, 7h-9h, les matins du samedi, Nicolas Herbeau.
C'est une émission spéciale Océan que nous vous proposons ce matin, alors que se tient à Nice la troisième conférence des Nations Unies sur les océans, donc qu'on appelle aussi UNOC 3. On essaiera de comprendre tout à l'heure l'utilité de ce sommet co-organisé par la France et le Costa Rica. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un océan? Que savons-nous de cet espace immense qui nous paraît vide? Vide car nous sommes bien loin d'avoir élucidé tous ces mystères. Et c'est pour cette raison que nous avons convié ce matin deux fins connaisseurs et explorateurs des océans. François Sarano, bonjour.
Bonjour Nicolas Herbeau.
Vous êtes océanographe, plongeur professionnel, cofondateur de l'association Longitude 181. Vous avez été le conseiller du commandant Cousteau. Votre dernier livre, rédigé avec la juriste Marine Calmet, s'intitule « Justice pour l'étoile de mer vers la reconnaissance des droits de l'océan » chez Actes Sud. Je salue également Romain Troublé, bonjour à vous.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes biologiste de formation, directeur général de la fondation Tara, on en parlera bien sûr, président également de la plateforme Océan et Climat. Vous racontez votre parcours dans un livre publié aux éditions Stock, Océan. Aujourd'hui, l'océan, pardon, parcours d'un engagement. Je précise d'ailleurs à nos auditeurs que vous êtes tous les deux actuellement à distance, car bien sûr à Nice. François Sarano, c'est bien ça notre premier problème, c'est notre méconnaissance des grands fonds marins?
Eh oui, masqué par la surface de l'océan, les terriens ignorent la mer. Et même ceux qui la connaissent souvent ne considèrent la mer que comme un réservoir de ressources et ne parlent que de 150 espèces qu'on exploite et de quelques 50 espèces emblématiques comme les dauphins et les cachalots. Mais la mer, ça n'est pas ça. C'est une communauté vivante de plus de 250 000 espèces qui ont déjà été décrites et des milliers d'autres qui ne l'ont pas été. Et celles-ci sont complètement ignorées. On n'en parle pas, il n'y a pas de statistiques sur elles, il n'y a pas de reconnaissance. Aujourd'hui, ces espèces-là sont écrabouillées, broyées, sans même qu'on s'en rende compte, parce qu'elles ne sont jamais nommées. Et il est urgent donc de leur donner un statut à ces espèces. Il est urgent de leur donner un droit d'existence pour que nous puissions, nous, les humains, ajuster nos activités en évitant les dégâts collatéraux qui les broient, qui les détruisent. Parce que nous ne nous rendons pas compte que nous éliminons ces espèces-là qui sont essentielles à nous-mêmes et surtout aux espèces que nous jugeons importantes et qui sont les espèces comme ressources, comme le thon, la morue ou la dorade. Voilà. Il faut vraiment penser que la communauté vivante est une communauté d'individus tous reliés les uns aux autres et que quand on élimine tous ces individus qu'on ignore, eh bien, on blesse profondément notre biosphère et le support de la vie sur cette planète.
On va reparler évidemment de l'interconnexion de ces écosystèmes. Romain Troublé, comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que eh bien ce gigantesque espace que sont les océans n'était pas vide?
Écoutez, nous, avec la goélette Tara, depuis plus de 20 ans maintenant, on parcourt les océans à l'étude de ce qui vit dedans, ce que vient de dire François, c'est-à-dire que l'océan, il est vivant, et quand on regarde avec une loupe, on voit une multitude d'espèces, on voit, par litre d'eau de mer, je vous parle de milliards d'organismes. On parle de milliards d'organismes, de virus, de bactéries, mais aussi de petits planctons, de petits insectes aussi, de petites algues. Et tout ça, c'est indispensable. Indispensable à l'équilibre de la planète, au captage de carbone, au transfert d'énergie, d'énergie solaire, hein, évidemment, de la photosynthèse, vers les écosystèmes, vers la chaîne alimentaire. Tous ces organismes-là, ils sont très sensibles à la température, ils sont très sensibles à la pollution de l'eau, ils sont très sensibles à nos activités. Et ça, on appelle ça le plancton. C'est un formidable peuple invisible. Invisible, on ne le voit pas, on n'y pense pas, on ne s'en préoccupe pas, on ne sait même pas qu'il existe. Et je crois que, au-delà de tout, ce qui affecte l'océan, c'est le dédain. C'est le dédain de cette humanité qui lui tourne le dos et qui s'intéresse très peu à ses conditions et à sa bonne santé.
Alors c'est peut-être facile pour vous deux parce que vous avez été dans ces fonds marins. François Sarano, vous êtes allé dans les profondeurs. Vous aussi, Romain Troublé, vous y avez passé des heures, des jours au milieu de ces espaces infinis. Comment essayer de faire comprendre à ceux qui ont peut-être moins mis les pieds dans l'eau, si je puis dire, que cette océan l'océan, il a une véritable, et j'ose pas dire le mot parce que je sais que ça va pas vous plaire, mais une utilité pour l'humanité. François Sarano.
Utilité, oui, il n'y a pas que ça. Et vraiment, j'insisterai là-dessus parce que nous, les humains, nous sommes aussi sensibles à la beauté. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on n'en parle jamais. Il n'y a pas d'indicateur pour ça. Et les fonds marins, les baleines, les cachalots, c'est des animaux qui sont beaux. Et la beauté amène de la paix. Mais je voudrais insister sur le fait que cette conférence des Nations Unies est importante parce que ce n'est que la troisième. Vous vous rendez compte? Il y a des conférences internationales sur tout. Mais sur l'océan, ce n'est que la troisième. Et cela montre à quel point l'océan est oublié. Et cela donne beaucoup d'importance à cette réunion formidable à Nice.
Hein, on va en parler de cette réunion, François Sarano, tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais sur ce que vous disiez à l'instant, cette beauté, ça veut dire que sans cette expérience du vivant, on n'arrive pas à se dire qu'il faut protéger cet océan, qu'il faut protéger ses habitants aussi. Vous racontez souvent, François Sarano, cette rencontre cette nage avec cette femelle requin blanc. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et qu'est-ce que ça peut apporter aussi de raconter, de partager cette expérience-là?
Rencontre. Oui, rencontre. Et la rencontre, ça se vit. C'est pas intellectuel. Et surtout, ça ne s'apprend pas sur les tutos sur Internet. Rencontre avec Lady Mystery, la grande femelle requin blanc de plus de 5,50 m, formidable pour le tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Clouzot. Je suis dans le bleu avec le caméraman David Reichert, emporté par les courants. Et tout d'un coup, cette magnifique femelle requin blanc arrive, calme, sereine. Et je m'inquiète, va-t-elle avoir peur? Et non, elle vient et nous sommes tout d'un coup côte à côte. Et elle m'accepte à quelques centimètres qui nous séparent, des centimètres de confiance réciproque. Nous nageons épaule contre nageoire. C'est un moment de paix, de sérénité incroyable, qu'on a envie de partager, que j'ai envie de partager avec vous maintenant, parce que ça offre de la paix et du bonheur. La rencontre avec la vie sauvage, ça donne envie d'aimer le monde entier, de communiquer cette joie que cette audience qu'elle m'a accordée offre. Et vous savez ce qu'il y a de formidable avec la vie sauvage de l'océan? C'est qu'avec elle, les rencontres sont authentiques. On peut pas tricher. Et donc, comme elles sont si pures, si originelles, si physiques, si sensuelles, elles vous bouleversent pour toujours. Mais tout le monde ne peut pas rencontrer les requins blancs. Alors, il faut aller le sentier sous-marin de Porco, dans 5 mètres d'eau. Vous allez voir des poissons formidables. Et si vous prêtez attention à eux, vous y découvrirez la dorade, la saupe. Et chaque fois que vous mettrez un nom, que vous prêterez attention à ces autres vivants, vous serez riche des relations que vous allez tisser avec eux. Vous serez plein et vous pourrez partager ces relations. Ce monde sauvage qui est là juste à portée, je vous assure, à portée, eh bien, il vous donne l'impression, tout d'un coup, d'être vivant parmi les vivants. Oui, vous êtes vivant.
Ce monde sauvage que connaît bien aussi Romain Troublé, vous l'avez découvert aussi en tant que régatier de haut niveau. D'abord, en tant que sportif, quel a été pour vous, puisque c'était en quelque sorte votre première vie, le bouleversement pour passer, si je puis le résumer ainsi, et n'hésitez pas à me corriger, mais de sportif à militant de l'océan?
Écoutez, effectivement, moi j'ai commencé à aller sur la mer depuis tout petit et j'ai fait beaucoup de bateaux, beaucoup de régates autour du monde, beaucoup de à très haut niveau, très bien, super. C'était une formidable vie et j'ai rejoint l'aventure Tara en 2003 et j'ai commencé à beaucoup échanger avec les chercheurs, avec les biologistes, avec les océanographes, avec et réfléchir un peu à tous ces enjeux d'écosystème, d'écologie. On parle beaucoup d'espèces quand on parle d'océan, mais en fait, c'est un système, c'est une communauté qu'il faut bien prendre en tant que telle. Et puis, est arrivée la naissance de ma fille, de mon fils, Fleur et Nemo, et j'ai réalisé qu'ils allaient vivre jusqu'en 2100. 2100, c'est notre horizon à tous, climatique, montée des eaux. Il y a une tragédie, finalement, qui se dessine pour 2100. Cette tragédie, elle m'a réveillé en pleine nuit et depuis, je ne dors plus beaucoup et je m'intéresse beaucoup à l'océan et à le protéger. Et mon énergie, elle vient de là. Je crois qu'on a tous besoin de chercher notre énergie. Mais pour venir à la beauté, il faut passer du temps, en fait, en mer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est des citadins, la plupart de l'humanité. En tout cas, des pays dans lesquels on évolue, on passe beaucoup, on est très loin de la nature, en fait. Et donc, on ne voit plus rien. On ne sait plus regarder. On ne sait plus s'attendre. S'attarder sur une espèce, comme le dit François, on ne sait plus regarder, on ne sait plus observer. Je crois que ça, c'est important. Et je voudrais vous raconter une histoire qui moi, m'a bouleversé. Hein. C'est qu'on était sur une île au large de la Colombie. Et puis, un soir, un requin soyeux, qui faisait 3 mètres, vient près de Tara. Et puis, il s'arrête, et puis il revient, et puis il s'arrête. Et on voit bien qu'il avait un fil dans la nageoire. Et ce fil lui cisaillait la nageoire. Et donc, on s'est approché de lui, on lui a enlevé ce fil, il s'est laissé faire. C'est pour vous montrer à quel point on est ignorant, en fait. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent tenir de nous, ils savent très bien ce qu'ils peuvent aussi craindre de nous. Mais nous, on n'a aucune idée de cette communication possible, de ce dialogue. Enfin, ce que raconte François, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, on pourrait communiquer si on prenait le temps et si on avait envie, si on comprenait tout ça. Je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. C'est ça aussi qui nous différencie, nous, les pays développés, des pays insulaires qui ont une relation à la mer un peu différente dans leur culture.
François Sarano, vous avez prononcé un mot tout à l'heure, c'est le mot « ressources ». Et nous, on a intitulé cette émission « L'océan ne nous appartient pas ». Pourtant, l'humain y est bien installé. Vous écrivez dans votre livre « L'océan n'est perçu que comme un réservoir de ressources, l'ultime réceptacle de nos déchets, une surface de navigation, un lieu de villégiature, mais jamais comme le lieu de vie d'autres vivants, parce que les poissons ne crient pas quand on les écrabouille, parce que les étoiles de mer ne nous regardent pas quand on les démembre. » J'aimerais qu'on s'arrête sur cette étoile de mer. Vous nous racontez dans votre livre, en quelque sorte, son parcours, un parcours vers la mort assez rapide, puisqu'il est lié à la pêche, à ce chalutage de fond, à ces filets qui les remontent sur les ponts des bateaux, et le temps d'un instant, cette étoile de mer meurt sans que personne ne s'en rende compte, en quelque sorte.
Oui, je voudrais aussi commencer par dire, il ne s'agit pas ici de remettre en question totalement la pêche ou d'accuser les pêcheurs, mais il s'agit d'ajuster les techniques de pêche qui font des dégâts collatéraux inadmissibles dans les communautés vivantes marines. Donc je fais mon doctorat d'océanographie, je suis accueilli sur un chalutier Rochelet, un chalutier classique, le dernier qui existait, on remontait le chalut sur le côté, et je remercie ces pêcheurs qui m'ont accueilli. Et là, le chalut arrive sur le pont, la poche s'ouvre, tout le monde va regarder, chercher le merlu, la morue, le lieu noir, le lieu jaune... Et on s'intéresse à ça. Et moi aussi, je ne m'intéresse qu'à ça. Mais le reste, tous les autres vivants, les éponges, les étoiles de mer, les oursins, les poules, tout ça, s'est écrabouillé et s'est remis à l'eau avec la boue et les cailloux. Le vivant n'a pas plus de valeur que la boue et les cailloux. C'est rien. Ça n'est même pas considéré comme de la matière organique. Comment voulez-vous que nous ajustions nos engins de pêche? Comment voulez-vous que nous ajustions nos activités à leur droit de vivre si nous ne les reconnaissons pas? Quand on négocie avec quelqu'un, on reconnaît son existence. On peut s'opposer très fort, mais il existe. Or, aujourd'hui, dans notre droit, au mieux, les espèces vivantes sont considérées comme des objets ressources dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Au pire, elles sont rien. Eh bien, les vivants marins, l'essentiel, sont rien. C'est même pas une négation. Si je disais ne sont rien, c'est déjà qu'on a une petite idée de ce qu'ils sont. Non, c'est juste rien. Par conséquent, il faut leur donner un statut juridique pour nous imposer de prendre attention, de faire attention à eux, et puis après, d'engager une sorte de diplomatie et de négociation avec eux pour que nous puissions à la fois continuer à vivre et à prélever, parce que nous avons aussi, nous, un droit de vivre, mais en prêtant attention à leurs besoins à eux pour éviter de les écrabouiller inutilement.
Romain Troublé, sur la question de la pêche, réaction peut-être, et aussi sur cette idée, voilà, il faut que le droit reconnaisse l'existence de ces créatures marines.
Ah bah, je suis entièrement d'accord avec cette analyse sur le droit d'existence des écosystèmes, des espèces. Évidemment qu'on doit aller vers ça. Et certains pays l'ont fait. La Nouvelle-Zélande a commencé avec une rivière. Pourquoi pas aller beaucoup plus loin? Et c'est beaucoup des sujets qu'on aborde aujourd'hui. On va aborder ici à Nice, mais aussi depuis maintenant pas mal de temps. Il faut pousser, il faut aller plus loin encore, évidemment. Sur la pêche, évidemment qu'on a besoin de pêcheurs. Évidemment que tout ce débat qu'on a, notamment dans notre pays, sur la pêche, c'est pas contre les pêcheurs, c'est pas contre leur vie, c'est pas contre tous les villages qui en dépendent, les criées qui en dépendent. C'est qu'on a tous l'impression, les scientifiques en tête, et les ONG évidemment, qu'on est en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, dans quelques années, s'ils continuent comme ça, les poissons vont continuer à réduire en taille, l'écosystème va continuer à devenir de moins en moins divers, de moins en moins robuste. Et le changement climatique va arriver par-dessus en changeant les équilibres, en changeant la présence de telle ou telle espèce, tel ou tel stock dans telle ou telle région. Et ça, ça va arriver à la mort des pêcheurs, in fine. Et donc, ce qu'on dit tous, c'est qu'il faut pêcher mieux. Il faut pêcher avec des engins de pêche qui soient respectueux des habitats. C'est là que se crée la biodiversité, c'est là que se niche la biodiversité. Et des engins de pêche qui respectent aussi les petits pêcheurs, la petite pêche, pour qu'il y ait une diversité de pêcheurs qui puissent subsister. Aujourd'hui, on voit bien que dans beaucoup de pays, notamment comme au Sénégal, mais aussi en France, où les petits pêcheurs n'ont pas assez de poissons à pêcher, ou pas assez de quotas pour les pêcher, pas assez de droits de pêche. Donc il y a des questions. Pour moi, il faut revoir à peu près tout de fond en comble. Il faut discuter pour ça, il faut dialoguer. Et c'est vrai qu'on n'a pas de dialogue entre scientifiques, ONG et pêcheurs. Très peu, en tout cas, il y a une méfiance, il y a une défiance. Il y en avait il y a 10 ans, il n'y en a plus aujourd'hui. Et donc... Comment rétablir ça? Comment être beaucoup plus ambitieux? On attend beaucoup d'ailleurs d'annonces du président Macron à Nice dans les prochains jours. Il faut avancer sur ce sujet. Il faut que la France aussi soit à la hauteur de ce qu'elle propose dans le monde entier en accueillant le monde ici à Nice.
François Zarano, vous dénoncez, vous, dans votre livre, cette société extractiviste qui ne voit l'océan qu'avec des œillères utilitaristes. Justement, parmi toutes les activités, alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y a effectivement le stockage de CO2, on a parlé du chalutage, il y a les forages d'hydrocarbures, on utilise aussi même l'océan comme une poubelle. Qu'est-ce qu'il faut absolument cesser le plus rapidement possible, puisqu'on a parlé d'aménagement ou de changement dans la pêche, mais est-ce qu'il y a des activités auxquelles il faut mettre un terme, selon vous?
Mais oui, mais globalement, comme le disait Romain, il faut voir loin, 2100. Il a pris conscience avec ses enfants, moi j'ai aussi pris conscience avec ma petite fille. Quel monde on va pas ? Aujourd'hui, encore une fois, c'est le court terme, et puis on privatise les profits, on externalise et on laisse au public les dettes, la dette écologique. Globalement, on offre à nos enfants une dette écologique abyssale. Donc il faut regarder loin, il faut regarder large, il faut regarder les communs, la communauté vivante de l'océan, c'est la communauté... Il n'y a qu'une seule biosphère. Il faut juste replacer les choses dans leur contexte. Nous n'avons qu'une seule terre, qu'un seul océan, et il n'y a qu'une seule biosphère. L'océan devrait s'écrire E-A-U-C-E-A-N, et nous comprendrions mieux que chaque altération, quelle qu'elle puisse être, chaque pollution, nous empoisonne. Nous faisons partie de cette communauté vivante. Nous sommes liés à tous les vivants depuis 3,8 milliards d'années. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons co-évolué avec eux, co-évolué. Nous sommes dépendants d'eux. Par conséquent, empoisonnement, raclage du fond, urbanisation qui détruit les zones côtières indispensables aux communautés vivantes, tout altère. Effectivement, ce qui est le plus terrible aujourd'hui, c'est d'imaginer que Donald Trump puisse lancer l'extraction des minerais dans les grands fonds marins. Pourquoi? Parce que les communautés des grands fonds marins sont des communautés formidablement fragiles, qui ont mis des milliers d'années à se constituer. Elles nous sont indispensables, et si nous exploitons les fonds, elles vont disparaître pour toujours, parce que jamais nous attendrons des milliers d'années à nouveau pour les laisser revenir. Nos enfants, vos petits-petits-petits-petits-enfants seront privés pour toujours de ce socle qui fait ce que nous sommes.
L'océan, les océans, c'est Romain Troublé, 70% de la superficie de la planète. Est-ce que c'est justement peut-être cette immensité qui nous laisse croire que c'est une ressource inépuisable ?
Bien sûr, quand vous êtes un humain sur le bord de, sur une plage et regardez la mer, vous vous dites c'est gigantesque, c'est trop grand pour s'écrouler, c'est trop grand pour qu'on y ait un impact. Et on l'a découvert assez récemment finalement, il y a une trentaine d'années, 30, 40 ans, quand on a envoyé satellite dans l'espace, quand on a commencé à se rendre compte de... Finalement, quand on regarde le volume d'eau dans la planète, 3,87% de l'eau est dans l'océan, elle est salée, hein, et c'est un cycle. Mais en fait, c'est, quand on compare cette boule d'eau à la planète Terre, bah, c'est rien du tout. Cette boule d'eau, elle fait 1100 km de diamètre. Finalement, c'est rien, c'est très fragile. On ne peut pas tout y jeter, pas tout y prendre sans avoir d'impact. Et moi, ce qu'on va faire ici aussi à Nice, c'est de dire pourquoi ne pas changer le paradigme. Pourquoi ne pas dire que finalement, l'océan, tout est protégé par défaut. Et puis, en fait, si vous voulez faire une activité qui a une activité économique, qui a un impact, eh ben, vous devez prouver, vous qui voulez la mettre en œuvre, que cette activité est durable. C'est-à-dire qu'on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce n'est pas aux ONG désargentées, aux scientifiques avec leurs idées de plaider pour la protection, mais c'est plutôt pour l'activité, ceux qui veulent mettre une activité en place, de s'assurer qu'elle n'a pas d'impact. Et je pense que ce changement de paradigme serait intéressant parce que il changerait complètement la façon de voir cet océan et de l'appréhender. Et on va pousser ça et on va lancer ça, notamment à Nice, un groupe de travail pour pouvoir avancer ces trois prochaines années sur cette idée.
On va justement parler de ce qui va se passer à Nice, de ce qui s'est déjà passé, puisque les discussions ont débuté. Mais la partie politique de ce sommet, c'est à partir de lundi. On retrouve François Sarano et Romain Troublé, nos deux invités, ce matin dans quelques minutes, juste après le journal de 8h, pour poursuivre donc cette discussion ensemble. Le journal de 8h, c'est dans quelques instants.
France Culture, les matins du samedi. Nicolas Herbeau.
Nous poursuivons justement cette discussion ce matin avec nos invités François Sarano, océanographe, cofondateur de l'association Longitude 181. Romain Troublé est également avec nous, biologiste de formation, directeur général de la Fondation Tara, président de la plateforme Océan et Climat. Romain Troublé, vous êtes tous les deux à Nice dans le cadre de ce sommet des Nations Unies sur l'océan qui a donc en fait déjà débuté pour les scientifiques et les ONG. La partie plus politique, ce sera à partir de lundi. Romain Troublé, la question est peut-être un serpent de mer pour faire ce vilain jeu de mots. Mais à quoi sert véritablement ce sommet ?
Alors déjà, bravo pour la chronique, était très, très sympa.
Merci pour lui. Il est là, il vous entend, Mathieu Carantin.
Écoutez, ces grandes réunions internationales ont beaucoup de gens, et c'est commun de dire ça sert à quoi, ça sert à rien, ça avance pas. Et évidemment, on a que ça aujourd'hui pour se mettre d'accord sur cette planète. On a que cette ONU qu'il faut choyer et qu'il faut choyer de plus en plus. On voit bien qu'elle est mise à mal depuis encore quelques mois maintenant, encore plus qu'avant. Et donc, cette grand-messe de l'océan, finalement, c'est assez historique. Hein. Je crois que dans l'histoire de l'ONU, dans l'histoire de l'humanité, jamais autant d'États, 180 sont là ici à Nice, représentés, jamais autant de chefs d'État, une cinquantaine, ou de ministres, 45-50 ministres, sont venus s'intéresser à l'océan dans son ensemble. Et donc ça, c'est une victoire déjà au compte de la France et du Costa Rica, qui sont les deux puissances, les deux États qui accueillent cette conférence. Et c'est important parce que on va pas ici à Nice changer le monde, on va pas ici signer un traité de la mer pour tout protéger, etc. Mais on doit rehausser l'ambition. On doit rehausser l'ambition, on doit rehausser aussi la prise de conscience, hein, de l'urgence à agir pour cet océan et pour sa durabilité et un océan du futur vivant. Et ces réunions, elles sont là aussi pour que les gens se parlent, pour que les gens ne soient pas d'accord, argumentent, opposent leurs intérêts et leurs positions pour essayer de trouver des chemins communs. Ça prend du temps, ça prend d'énergie, mais ça prend aussi beaucoup, je crois, de relations humaines, de se parler, de se voir. C'est ça qui fait que ça peut fonctionner, qu'on peut se retrouver sur un avenir, un sujet commun.
François Sarano, décidément, la rencontre et la discussion, c'est essentiel pour les océans. Vous avez, vous aussi, quelques espoirs, même si je le rappelle, hein, ce plan d'action que doivent élaborer les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis n'est pas contraignant.
Oui, je crois, comme le dit Romain, il faut maintenir la discussion, la discussion, la discussion, la diplomatie entre États, entre nous les humains, mais il faut maintenant accueillir un nouvel interlocuteur, la communauté vivante marine. Il faut que nous sortions de notre entre-nous humain. Les vivants marins doivent être considérés et il faut leur donner véritablement la parole. Ça va être essentielle si nous voulons changer les choses. Il y a des espoirs. Tout n'est pas négatif dans cette troisième conférence qui tout de même, pour une fois, parle de l'océan. Mais il faut qu'on aille plus loin. Par exemple...
Comment on fait pour leur donner la parole ? Pardonnez-moi, François Sarano, comment on fait pour leur donner la parole ?
Eh bien, changer notre droit. La première chose, c'est de travailler les droits de l'océan et donner droit d'existence, un droit, oui, d'existence, comme à une société. Vous savez, une société anonyme, elles sont représentées par une personnalité juridique, et il y a quelqu'un qui les représente. Eh bien, il faut des représentants exactement de la même manière pour chaque être vivant, chaque créature vivante. Et à ce moment-là, la discussion va pouvoir s'engager. À ce moment-là, on va pouvoir être en mesure de négocier avec ces créatures vivantes, négocier leur droit de vivre et à l'ajuster à notre droit de vivre, nous les humains. Mais si nous ne changeons pas notre droit, ben, on ne pourra rien changer.
Est-ce qu'il y a des pays, François Sarano, qui sont un peu à l'avant-garde sur cette question de reconnaître les droits des écosystèmes?
Oui, il y a des pays, il y a même en Espagne une expérience très intéressante sur une lagune à qui on a donné une personnalité juridique, et ça ne résout pas les problèmes, mais ça met tout le monde en discussion, et puis ça renforce le dialogue entre les gens qui tout d'un coup s'intéressent à cette lagune, à cette communauté vivante, parce que certains doivent représenter les vivants, les autres. Les poissons, tous ceux qui sont là. Et ça a une véritable... ça permet une démocratie plus grande et ça implique les gens. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est la discussion qui va permettre que l'on sorte de la négation de la planète qu'on a aujourd'hui.
La discussion donc qui est au cœur de ce sommet, qui va s'ouvrir pour la partie politique, je l'ai dit, mais qui a déjà débuté. Romain Troublé, il y a 2000 scientifiques internationaux spécialistes des océans qui ont formulé ces dernières heures une série de 10 recommandations pour guider justement les chefs d'État et de gouvernement dont vous avez parlé tout à l'heure dans cette discussion et dans cette élaboration d'un plan d'action. Quelles sont les recommandations qui vous paraissent les plus intéressantes et les plus importantes?
Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Le message, c'est que la recherche, la science, elle est là. On sait ce qui se passe dans beaucoup d'endroits. On connaît les pressions. On arrive à les mesurer. La communauté scientifique va sortir de cette conférence avec une série d'indicateurs de santé de l'océan. Et je pense que ça peut servir parce que vous voyez bien à quel point le 1,5 de l'accord de Paris sur le climat, bien finalement, c'est une boussole. On la respecte pas, mais n'empêche que c'est un cap, c'est une boussole qui permet à tout le monde de s'aligner sur des engagements à plus ou moins long terme. Alors, la science, elle est là, je vous l'ai déjà dit, il y en a déjà beaucoup, il faut en faire évidemment plus, il faut découvrir évidemment beaucoup plus l'océan, mais il y a assez pour faire. Un des problèmes qu'on a, c'est que cette science fondamentale, cette science vraiment, ces résultats scientifiques, ils sont parfois compliqués à comprendre pour le décideur politique. Comment on transforme cette science en outils, en référentiel pour la gestion, pour savoir si on met une éolienne ici plutôt que là, quel est l'impact de celle-ci par rapport à une autre, des choses très pratiques par rapport aux écosystèmes. Eh bien, c'est celle-là qu'il faut arriver à développer. C'est pour ça que va être lancée ici à Nice toute une série de mobilisations et d'activités comme un nouveau panel international sur la durabilité de l'océan qui s'appelle IPOS, qui essaie d'avoir la science qui répond aux questions du politique à plus court terme, de façon plus concrète et plus pragmatique. Et c'est un début, on va voir comment ça peut se mettre en place. N'empêche que beaucoup d'États, notamment l'Europe et la France, évidemment, soutiennent cette initiative.
François Sarano, est-ce que vous avez l'impression que les politiques, les dirigeants sont plus à l'écoute aujourd'hui de ce qui se passe dans les océans?
Je ne suis pas si sûr. Mais ils ne se rendent pas bien compte que le fonctionnement de la vie, c'est un processus qui est indépendant des opinions de chacun et indépendant des politiques. Il faut qu'on reconstruise nos politiques sur la connaissance scientifique de ce processus biologique. Il y a des choses que l'on dit depuis toujours. Par exemple, si nous voulons faire renaître dans les océans une vie exubérante, il faut faire des aires marines protégées. Ça fait des années et des années que l'on dit 30% d'aires marines protégées. Qu'est-ce que c'est une aire protégée ? C'est un endroit où on ne prélève pas, un endroit où on ne fait pas d'extraction minière, un endroit où on ne pêche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que dans ces endroits que la vie en libre évolution peut se construire. Elle a besoin de temps. Et il faut lui laisser ce temps, et à ce moment-là, elle revient en force, parce que la vie marine est résiliente. Mais il ne faut pas croire que nous allons tout régler en gérant. Il faut laisser de la place aux autres vivants, qui savent très bien faire. Ils ont une expérience colossale, ces autres vivants. 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est une sacrée expérience.
Sur votre bateau Tara, Romain Troublé, vous la voyez, cette nature, quand on la laisse vivre, quand on ne la gère pas, comme dit François Sarano, revivre, se multiplier, reprendre de l'espace?
Évidemment que c'est tellement, enfin, j'ai envie de dire, c'est magique, la vie marine. C'est comment tous ces organismes arrivent à faire ce qu'ils font sans que il y ait pas d'orchestre. C'est tout ça est total auto-organisé. Moi ça me fascine, et beaucoup de chercheurs, notamment Eric Carcentier, qui en travaille beaucoup, est très impliqué dans cette auto-organisation, mieux la comprendre et mieux la décrire. Mais c'est vrai que quand vous, un récif corallien, par exemple, qui est une barrière corallienne qui est un espace de vie incroyable, hein, se fait détruire par une tempête ou par un moment de température un peu trop élevé, s'il se passe rien pendant 3 à 5 ans, cet récif corallien, il reprend comme si c'était un passé, en fait. C'est, la résilience, elle est colossale. Et c'est ça qui nous fait tenir, nous tous, les gens qui consacrons notre vie à défendre cet océan, à l'étudier. C'est cette résilience qui nous fait tenir et qui nous fait rester optimistes. Parce qu'on voit bien que si on prend des décisions, si on prend des positions un peu courageuses, mais courageuses de rien, parce qu'en fait, on parle de juste de protéger 30% de la planète, c'est pas non plus incroyable comme décision. Hein. On voit bien que l'océan sera notre partenaire, repartira, en fait. Et ça, c'est moi, ça qui me fait tenir, c'est ça qui me fait rendre optimiste sur l'action de l'homme, l'action de l'humain. On doit tous ensemble arriver à faire avec et ne plus faire contre ce vivant.
Ça veut dire que notre action sur le climat et sur les océans, elle est réversible, selon vous, Romain Troublé ?
Ah, bien sûr, alors sur le climat, elle est réversible à 20 ans, 25 ans, donc c'est très long, et c'est vrai que les mandats politiques ne voient pas le bénéfice de leurs engagements pour un homme politique ou une femme politique. Mais sur l'océan, c'est beaucoup plus court. Vous avez une zone devant votre village, devant votre territoire, où vous avez pollué pendant des années, vous arrêtez de polluer. En un mandat politique, en 4 à 5 ans, vous voyez une évolution, et vous pouvez montrer que la vie revient et que la vie se redéveloppe. Et donc il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas des choses qui sont du climat, qui prennent du temps, mais qui sont des pressions directes sur ces écosystèmes. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de pêche, et aussi de pollution tellurique, parce qu'aujourd'hui on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup du plastique, mais pour moi, le plus importante pollution de la planète, de l'océan aujourd'hui, c'est la pollution chimique, qui est invisible aussi, celle-ci, et qui vient de nos territoires, qui vient de nos champs, de nos eaux usées, tout ça, c'est en train d'être mesuré, et je pense qu'on va découvrir encore beaucoup de choses à faire. Malheureusement.
C'est là où on disait évidemment que ces espaces et ces écosystèmes sont interconnectés, François Sarano. Ce qui se passe aussi sur la Terre a des répercussions et des conséquences sur la pollution de cet océan et de ses eaux. Hein.
Et oui, les fleuves sont les racines de la mer. Tout ce que nous faisons ici à l'intérieur des terres finira un jour en mer. Et puis, le grand cycle de l'eau nous réunit tous. Hein. On ne peut pas dire « je n'habite pas au bord de la mer ». On habite tous au bord de la mer. On est dépendant de la mer, de l'évaporation de cette mer, donc du réchauffement climatique, des pluies qui retournent dans les vivants. C'est la même eau qui coule dans tous les vivants. Et lorsqu'encore une fois, nous empoisonnons ici, moi j'habite à Valence, et le fleuve Rhône, eh ben je m'empoisonne moi-même, ou j'empoisonne pire. mes enfants et vos enfants. Parce que ces grands cycles de l'eau et du vivant, ils sont sur des milliers d'années. Donc aujourd'hui, nous renforçons cette dette écologique, l'empoisonnement de cette planète, qui est le support de la vie de nos enfants. Quel monde on veut offrir à nos enfants? Il faut y réfléchir à ça. Il faut pas réfléchir à court terme. Mais comme le disait Romain, il y a des réalisations qui fonctionnent relativement vite. Regardez. L'arène marine nationale de Porquerolles, elle a 60 ans. Elle est au milieu d'une Méditerranée désertifiée. Elle est foisonnante. C'est un tout petit lot dans lequel, il y a 60 ans, on a décidé, de laisser faire et de ne plus prélever, ou que très très modérément et de façon très encadrée, plus de pêche de loisirs, quelques professionnels encadrés, et tout d'un coup, sont revenus les méros, qui sont les gros prédateurs symboles de la Méditerranée, en nombre. Il y en avait 4, il y en a 840 aujourd'hui. On pensait qu'ils allaient tout manger. Les poulpes et les langoustes, c'est l'endroit où il y a le plus de poulpes. Et c'est l'endroit aussi où il y a le plus d'hommes, le plus de plongeurs. Donc ça peut marcher. Et ces réserves marines, c'est pas un conservatoire du passé, ça nous montre pas la Méditerranée du passé, ça nous montre demain. Ça nous montre la Méditerranée de demain parce que le vivant est en perpétuelle dynamique. Il a déjà intégré le changement climatique, le réchauffement, il intègre aussi nos pollutions et pourtant il est foisonnant. Cela veut dire que en regardant Porquerolles, on voit la Méditerranée que l'on pourrait offrir à nos enfants dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et c'est réjouissant, ça vaut la peine de se battre. À longitude 180, on se bat parce qu'on sait que c'est possible. Oui, c'est possible d'offrir un monde riche et paisible à nos enfants.
La plus vieille aire marine protégée d'Europe, hein, Porquerolles. Romain Troublé, sur l'action, puisqu'on parle aussi de vos associations et de vos fondations, il y a un volet dans ces propositions faites aux chefs d'État et de gouvernement, de financement aussi. Quels sont les financements dont on a besoin aujourd'hui pour continuer? Et c'est ce que vous faites d'ailleurs tous les deux, à explorer, à aller voir ce qu'il se passe là où nous n'allons pas.
Déjà, moi, je pense que les financements doivent venir de partout, et évidemment, les entreprises sont un élément essentiel de l'action. Je veux dire, on n'arrivera pas à être à la hauteur de ce qu'il faut faire si on n'implique pas le monde de l'entreprise et le monde de la finance dans cette aventure de l'océan et de la protection de l'océan. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de fonds verts, de fonds pour la nature, de fonds qui essaient de sortir des dividendes pour financer la protection. Et bien évidemment, sur l'océan, c'est pareil. Les fonds bleus commencent à arriver. Aujourd'hui, il y en a une multitude qui sont tout petits, qui font quelques dizaines de millions d'euros, même si ça vous peut paraître beaucoup pour certains, mais sinon, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, il faut massifier tout ça. Il faut changer d'échelle. Il faut que ces fonds, ils fassent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour protéger cet océan demain. Donc, on voit bien que c'est ça qui est aussi un enjeu. Ici à Monaco, pendant 2 jours, avant Nice, on va discuter de la finance bleue. Comment trouver les ressorts, trouver les mécanismes qui permettent de dégager des fonds, des financements pour la protection et pour tout le financement de toutes ces pratiques et toute cette transition. Parce qu'on est vraiment sur une transition, comme partout dans notre temps. On est dans le temps de la transition et de la transformation aussi de notre façon de faire. Et tout ça, ça coûte cher, et il faut des fonds, et la finance a les moyens, en tout cas est à l'échelle de ce qu'il faut faire. Elle peut l'être.
On arrive au terme de cette discussion. Je vais vous donner la parole brièvement à chacun. Pour terminer, à quel moment vous vous direz que ce sommet des Nations Unies pour l'océan a été une réussite? François Sarano d'abord.
Ah, si le président Macron annonçait tout d'un coup que 10% de nos aires marines protégées étaient véritablement protégées sans chalutage et sans prélèvement, alors ce serait formidable. Et puis si dans la déclaration de Nice, il y est mentionné qu'on ferait attention dorénavant aux droits de l'océan, aux droits d'existence des créatures marines.
Message passé. Romain Troublé, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, un dernier mot s'il vous plaît.
Le dernier mot, c'est qu'il faut de l'ambition. Il faut changer de braquet, là. Il faut changer de l'ambition sur tous les sujets de l'océan, que ce soit la biodiversité, la pollution, l'arrêter la pollution. Il faut s'engager sur ces choses-là. On attend que les États construisent des coalitions très ambitieuses pour tous les traités qui sont en train d'être négociés à l'ONU chaque jour depuis maintenant des années et encore pour des années.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle les titres de vos livres respectifs. Romain Troublé, votre parcours, vous le racontez dans ce livre d'édition Stock. Aujourd'hui, l'océan, parcours d'un engagement. François Sarano, je renvoie vers ce dernier livre où vous parlez des droits de ces êtres vivants, rédigé avec la juriste Marine Calmet. Justice pour l'étoile de mer vers la reconnaissance des droits de l'océan. C'est chez Actes Sud. Merci infiniment à tous les deux. Les matins du samedi se poursuivent jusqu'à 9h. Il est 8h39.